Hier soir, le Triduum pascal s'est ouvert par la messe de la Seine, qui commençait par cette antienne. Que notre seule fierté soit la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. En lui, nous avons le salut, la vie et la résurrection. Par lui, nous sommes sauvés et délivrés. C'est notre espérance, c'est la clé de lecture de toute cette retraite. La croix du Christ, la mort n'a pas le dernier mot, mais nous ouvre le salut, la vie, la résurrection. Par lui, nous sommes sauvés et délivrés. Aujourd'hui, vendredi saint, nous sommes avec Jésus souffrant qui est entré dans sa passion. Il se livre entièrement pour nous aimer jusqu'au bout. Cet amour, c'est l'amour même de Dieu, l'agapé, cet amour qui se donne jusqu'au bout. L'amour parfait du Fils pour son Père, cet amour a le pouvoir de détruire la haine. Dans Éphésiens 2, 14 à 22, je lis le verset 16, « Il a voulu réconcilier avec Dieu les uns et les autres en un seul corps par le moyen de la croix. En sa personne, il a tué la haine. » Je vous invite à noter les références des textes que je donne au fur et à mesure. Ça, vous pourrez les reprendre dans la prière. Éphésiens 2, 14, 22. En faisant mémoire de l'institution de l'Eucharistie, hier soir, nous avons demandé la grâce de l'unité et de la charité. Vous vous souvenez de la collecte du début de la messe. Nous avons accompagné Jésus ensuite à Gethsémani et nous avons écouté son cœur. Il est venu pour sauver tous les hommes, pour rassembler les enfants de Dieu dispersés, pour rassembler dans l'unité les enfants de Dieu dispersés, pour les ramener à lui, comme une poule rassemble ses petits sous ses ailes. C'est l'Église que le Seigneur construit et qu'il rassemble dans l'unité. Et c'est l'Esprit-Saint qui fait cette unité. Vous savez, on demande ça à chaque messe. Je ne sais pas si vous avez déjà fait attention dans la prière eucharistique. On demande à l'Esprit-Saint de nous rassembler dans l'unité, de faire la communion de l'Église. Le prêtre dit « Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit-Saint en un seul corps. » Ou bien dans une autre prière, « Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit-Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. » Puisqu'on a vu que l'Eucharistie fait l'Église, je voudrais aujourd'hui vous parler de l'Église. Le fruit de l'Eucharistie, c'est cette communion. Et l'autel que nous avons ici, qui est au centre de chacune de nos églises, au centre symbolique, représente le Christ. Il est un lieu de la présence du Christ. C'est pourquoi on s'incline devant lui quand on passe, même en dehors de la liturgie. D'ailleurs, aujourd'hui, le tabernacle est vide, aujourd'hui et demain. Et donc, on ne fait plus de génuflexion devant le tabernacle, qui est vide, mais on peut s'incliner devant l'autel. Et chaque jour de l'année, quand nous entrons dans l'Église, dans notre Église, dans notre paroisse, nous pouvons remercier Jésus pour le don de sa vie quand nous nous inclinons en passant devant l'autel. L'autel nous dit que le Christ est la pierre angulaire de l'édifice, c'est-à-dire la garantie de sa stabilité. Il est symboliquement le centre de nos églises, il est la pierre angulaire de l'Église avec un grand E, sur qui tout repose. C'est ce qu'on trouve encore dans Éphésiens 2, 14, 22 que vous lirez. Le Christ est la pierre angulaire sur qui tout repose, sur qui repose l'édifice, garantie de sa stabilité. Quelles que soient les tempêtes que nous traversons, le Christ demeure toujours. Et nous pouvons toujours nous accrocher à lui, il ne nous fait jamais défaut. Voilà ce que représente l'autel qui est solide, qui est stable, qui est fixe. Cette pierre qui est le centre. C'est pourquoi aussi il était si touchant, je ne sais pas si vous avez remarqué, dans les images qui ont été qui ont circulé en début de semaine après l'incendie de Notre-Dame de Paris, à l'intérieur, il restait l'autel avec la croix derrière lumineuse. Et cet autel qui est au centre, sur qui repose tout l'édifice. Alors, c'est très beau symboliquement. On a vu que le bâtiment pouvait s'écrouler. On a vu qu'il était fait de main d'homme et qu'il peut-être il pouvait disparaître. Mais l'Église, elle, demeure toujours, car elle est fondée sur le Christ. Et voilà ce que représente l'autel. Alors, rendons grâce. Et j'étais touchée d'entendre l'homélie de Monseigneur Aupetit, l'archevêque de Paris, à la messe chrismale, mercredi soir. Je vous cite ses paroles. « Notre cathédrale Notre-Dame de Paris a reçu l'onction, comme chacune de nos églises. En effet, lors de son édification, l'autel a été chrismé, c'est-à-dire enduit de saint crème. Il a reçu l'onction. » L'autel est le signe de la présence mystérieuse de Dieu, poursuit l'archevêque. Comme celui que Jacob construisit après sa vision des anges qui montent et descendent des cieux. Il appela ce lieu Bethel, qui signifie la maison de Dieu. L'autel, en effet, représente la présence de Dieu. La chrismation que nous faisons sur l'autel signifie la présence du Christ. Voilà pourquoi les prêtres le vénèrent en l'embrassant. Car c'est sur lui que se réalise le saint sacrifice rendu présent à chaque messe et qui sauve les hommes par le don d'amour que le Christ a fait une fois pour toutes sur la croix. C'est ce chemin de Pâques que nous célébrons à chaque Eucharistie, la mort et la résurrection du Seigneur Jésus. Alors, j'étais touchée que Monseigneur Aupetit complète mon enseignement. Alors nous pouvons relire dans l'évangile de saint Jean aujourd'hui cet épisode de la crucifixion que nous entendrons ce soir dans l'office de la Passion en Jean 19, 33-37. Quand ils arrivèrent à Jésus, voyant qu'il était déjà mort, ils ne lui brisèrent pas les jambes, mais un des soldats avec sa lance lui perça le côté. Et aussitôt, il en sortit du sang et de l'eau. Celui qui a vu rend témoignage, et son témoignage est véridique, et celui-là sait qu'il dit vrai, afin que vous aussi vous croyiez. Cela en effet arriva pour que s'accomplisse l'Écriture, aucun de ses os ne sera brisé. Un autre passage de l'Écriture dit encore, ils lèveront les yeux vers celui qu'ils ont transpercé. Voilà un passage emblématique qu'on lit souvent à Parelmonial. Jésus vient de mourir et il est dit qu'on ne pouvait pas laisser les corps en croix à cause du sabbat. Alors les soldats viennent pour achever les condamnés en leur brisant les jambes afin d'accélérer l'asphyxie. C'est à la fois un moment tragique et en même temps plein d'espérance parce que saint Jean remarque que ce qui sort de ce côté transpercé, c'est du sang et de l'eau. Et toute la tradition de l'Église, à la suite des pères de l'Église et jusqu'au Concile Vatican II, toute la tradition a vu dans ce signe la naissance de l'Église. Je cite Sacrosanctum Concilium, la Constitution sur la liturgie au numéro 5. C'est du côté du Christ endormi sur la croix qu'est né l'admirable sacrement de l'Église tout entière. Nous assistons donc aujourd'hui, Vendredi Saint, à la naissance de l'Église. Je cite encore le Concile Vatican II, Lumen Gentium numéro 3. L'Église qui est le règne de Dieu, déjà mystérieusement présent, opère dans le monde par la vertu de Dieu, sa croissance visible. Commencement et développement, que signifient le sang et l'eau sortant du côté ouvert de Jésus crucifié ? Et que prophétisent les paroles du Seigneur disant de sa mort en croix, « Pour moi, quand j'aurai été élevé de terre, j'attirerai tous les hommes. » Toutes les fois que le sacrifice de la croix, par lequel le Christ, notre Pâque, a été immolé, se célèbre sur l'autel, l'œuvre de notre rédemption s'opère. En même temps, par le sacrement du pain eucharistique, est représentée et réalisée l'unité des fidèles qui, dans le Christ, forment un seul corps. À cette union avec le Christ, lumière du monde, de qui nous procédons, par qui nous vivons, vers qui nous tendons, tous les hommes sont appelés. Lumen Gentium numéro 3. Tout est dit. L'Église naît du côté ouvert du Christ sur la croix. C'est pourquoi elle est sainte et fondamentalement inébranlable. Je lis la suite de l'homélie de Monseigneur Aupetit, mercredi dernier. La croix de ces murs, de la cathédrale de toute Église, ont été elles aussi enduites de cette huile sacrée, le Saint-Crème, de cette huile que nous allons maintenant consacrer. C'était la messe chrismale. Cette cathédrale est habitée par un peuple, mais elle n'est pas seulement habitée par ceux qui la prient ou qui la visitent. Elle est le vaisseau d'une présence. Elle est la maison de Dieu, c'est pourquoi elle est la maison de tous. Mais nous savons surtout que notre Église, ce sont les pierres vivantes qui ont reçu l'onction. Ce peuple de fidèles qui, eux aussi, savent qu'ils sont le vaisseau d'une présence. Saint Paul le rappelle quand il dit aux chrétiens, « C'est vous le temple de Dieu ». Nous allons rebâtir la cathédrale, poursuit-il, mais il nous faut aussi relever l'Église avec un grand E. Que tous les baptisés qui ont reçu l'onction du Christ, prêtre, prophète et roi, retrouvent la ferveur de leur commencement, revivent de l'extraordinaire grâce qu'ils ont reçue un jour en devenant enfants de Dieu. Il faut aussi que l'onction qu'ils ont reçue à la confirmation manifeste ce don plénier de l'Esprit-Saint, qui est l'expression même de l'amour de Dieu. Elle doit les remplir de joie, afin qu'ils construisent autour d'eux la civilisation de l'amour. Et il conclut ensemble, frères et sœurs, avec le don de l'Esprit-Saint qui nous vient du Père par le Fils, nous rebâtirons notre Église. Alors cette Église, elle est le temple d'où coule la source qui lave et purifie. Vous savez, cette source qui grossit en un grand fleuve que prophétise Ézéchiel, chapitre 47. Vous pouvez relire Ézéchiel 47. Et ici, c'est une autre référence qu'emploie Saint Jean, chapitre 19, quand il écrit « Ils lèveront les yeux vers celui qu'ils ont transpercé », il fait référence à Zacharie, chapitre 12 et 13. « Je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication. » Ils regarderont vers moi celui qu'ils ont transpercé. Ils feront une lamentation sur lui comme on se lamente sur un fils unique. Ils pleureront sur lui amèrement comme on pleure sur un premier-né. Ce jour-là, il y aura une source qui jaillira pour la maison de David et pour les habitants de Jérusalem. Elle les lavera de leurs péchés et de leurs souillures. Voilà cette source qui est l'Esprit-Saint qui est donné au baptême, à la confirmation, et qui est symbolisé par ce Saint-Crème qui a oint l'autel, mais aussi nos propres cœurs quand nous avons reçu ces sacrements. Donc demandons aujourd'hui, en contemplant la croix, à recevoir à nouveau cet Esprit-Saint en plénitude pour être lavé de tout péché, de toute souillure. Sur la croix, dans la plaie ouverte du côté du Christ, il y a une source ouverte pour tous les hommes, pour toutes les nations. Vous vous souvenez que Jésus avait invité la Samaritaine à venir boire à cette source. Il lui avait dit « Si tu savais le don de Dieu ». Elle demandait sur quelle montagne il fallait adorer. Nous pouvons lui dire aujourd'hui « C'est sur la montagne du Golgotha qu'a jailli la source que tu cherchais. Nous l'avons vue, c'est une source pour abreuver toutes les nations ». Puis Jésus, plus tard, l'avait proclamé dans Jean 7, 37, « Celui qui a soif, qu'ils viennent à moi et qu'ils boivent celui qui croit en moi. De son sein couleront des fleuves d'eau vive. Cette promesse s'accomplit à la croix quand le soldat perce le côté de Jésus avec sa lance. Saint Jean nous dit qu'il en vit jaillir du sang et de l'eau. L'Église est sainte donc parce qu'elle est née du côté ouvert du Christ. Et c'est une source pour toutes les nations. Alors aujourd'hui, en ce Vendredi Saint, nous allons prier pour toutes les nations. Nous allons prier pour tous les hommes, pas seulement pour nous-mêmes, mais pour le monde entier. Puisque Jésus a dit « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi ». Mais entendons cet appel pour nous-mêmes, allons au pied de la croix et puis portons tous ceux que nous connaissons ou que nous ne connaissons pas, qui puissent venir eux aussi s'abreuver à cette source. Au pied de la croix cette année, peut-être plus que jamais, nous sommes invités à entrer dans un esprit de pénitence personnelle et collectif, non seulement pour nous-mêmes, nos péchés personnels, mais aussi pour ceux de nos frères. Demandons cette année cet esprit de grâce et de supplication dont parlait Zacharie. Regardons Jésus qui est la victime du péché des hommes. Devant tant de souffrances, la colère est légitime. L'Église est défigurée, Jésus est bafoué, humilié, frappé. Cela doit susciter notre colère et aussi notre engagement pour la sainteté. Je voudrais revenir sur ce que vous redonnez, ce que nous a dit le pape François le 24 mars dernier. Il a raffirmé fortement, il a demandé fortement ce qu'on puisse avoir cet esprit de pénitence. Il nous a exhorté à prendre au sérieux cette conversion personnelle et cette prière face à la manifestation du mal. Dans la conclusion du sommet sur les abus, le 24 mars dernier, il évoque la colère de Dieu. Je vous renvoie à ce texte que je cite. « Frères et sœurs, dans la colère légitime des personnes, l'Église voit un reflet de la colère de Dieu, trahi et frappé par ses consacrés malhonnêtes. L'écho du cri silencieux des petits, qui au lieu de trouver en eux une paternité et des guides spirituels, ont trouvé des bourreaux, fera trembler les cœurs anesthésiés par l'hypocrisie et le pouvoir. » Nous avons le devoir d'écouter attentivement ce cri silencieux étouffé. Face à la manifestation du mal, le pape nous invite, je cite encore, à prendre les mesures spirituelles que le Seigneur lui-même nous enseigne. Humiliation, accusation de nous-mêmes, prière et pénitence. C'est le seul moyen, dit-il, de vaincre l'esprit du mal. C'est ainsi que Jésus l'a vaincu. Il poursuit en disant « La sainte crainte de Dieu nous porte à nous accuser nous-mêmes, comme personne et comme institution, et à réparer nos manquements. S'accuser soi-même, c'est un début de sagesse lié à la sainte crainte de Dieu. Apprendre à s'accuser soi-même comme personne, comme institution, comme société. En réalité, nous ne devons pas, dit-il, tomber dans le piège d'accuser les autres, ce qui est un pas vers le prétexte qui nous sépare de la réalité. » Frères et sœurs, cette année, présentons au Seigneur nos propres lâchetés et demandons-lui pardon. Le pape nous invite à prendre le temps d'écouter, écouter les petits, écouter les victimes éventuellement. Écouter, dit le pape, je me permets cette expression, perdre du temps dans l'écoute. L'écoute guérit le blessé et nous guérit aussi nous-mêmes de l'égoïsme, de la distance, du « cela ne me regarde pas », de l'attitude du prêtre et du lévite dans la parabole du bon samaritain. Frères et sœurs, aujourd'hui, nous passons du temps avec Jésus, Jésus bafoué, Jésus victime de la méchanceté des hommes, et nous lui offrons ce que nous avons, notre pauvre amour. Et ici, à Paray-le-Monial, où Jésus s'est plaint de l'ingratitude des hommes et de la trahison de certains consacrés, nous pouvons réparer en offrant tout simplement notre pauvre amour aujourd'hui au pied de la croix. Entendons cet appel à la pénitence, entendons cet appel de Jésus aujourd'hui, écoutons son cœur Prenons cet appel du pape au sérieux, mais nous ne nous décourageons pas pour autant, car c'est lui, le Christ, qui porte et qui enlève le péché du monde. Ne perdons pas de vue le fondement de notre espérance. Son sacrifice, aujourd'hui, nous rend la vie. Par sa mort, il a vaincu la mort. Le Christ veut nous libérer, veut libérer l'Église de tout péché, et peut-être d'abord en nous le révélant. Nous préférerions souvent rester dans les ténèbres pour ne pas voir le mal qui nous aveugle, parce que ça fait mal. Mais Jésus nous invite à faire la lumière, à marcher dans la lumière. Je citerai Éphésiens 5, 1 à 20. Vous pourrez le relire en entier, je citerai un passage. Autrefois, vous étiez ténèbres. Maintenant, dans le Seigneur, vous êtes lumière. Conduisez-vous comme des enfants de lumière. Or, la lumière a pour fruit tout ce qui est bonté, justice et vérité. Et sachez reconnaître ce qui est capable de plaire au Seigneur. Ne prenez aucune part aux activités des ténèbres, elles ne produisent rien de bon. Démasquez-les plutôt. Ce que ces gens-là font en cachette, on a honte même d'en parler, mais tout ce qui est démasqué est rendu manifeste par la lumière, et tout ce qui devient manifeste est lumière. Si le Seigneur nous permet de dévoiler le mal, ce n'est pas pour nous désespérer, c'est que pour que nous puissions vivre dans la lumière. Dans Jean 3, 19, 21, « Et le jugement, le voici, la lumière est venue dans le monde et les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Celui qui fait le mal déteste la lumière. Il ne vient pas à la lumière de peur que ses œuvres ne soient dénoncées. Mais celui qui fait la vérité vient à la lumière pour qu'il soit manifeste que ses œuvres ont été accomplies en union avec Dieu. » N'ayons donc pas peur de la lumière qui nous dévoile ce que les ténèbres et le silence cachaient si bien. J'oserais une image, vous savez, je citerai un film, ici on cite Bilbo le Hobbit, alors moi je vous citerai Indiana Jones. Alors, pour vous détendre un peu, y a un moment, ils sont dans un souterrain, je ne sais pas, tout est sombre, tout est noir. Et puis, ils marchent sur des choses, ils ne savent pas très bien ce que c'est. Alors, ils disent, on dirait des gâteaux secs, ça fait du bruit. Et puis, à un moment, quelqu'un retrouve l'allumette, ils allument, la petite flamme, la lumière dans les ténèbres. Et là, ils s'aperçoivent que ça grouille de tas de bestioles, c'est assez horrible à ce moment-là. Et en fait, tant qu'ils étaient dans la lumière, ils ne voyaient rien. Et en fait, au moment où ils allument la lumière, ça grouille de partout. Alors, c'est très désagréable, mais enfin, il valait quand même mieux être dans la lumière. Pour ne pas prendre les gâteaux secs, les bestioles pour les gâteaux secs. Alors, n'ayons pas peur de démasquer les activités des ténèbres, d'allumer la lumière, y compris dans notre propre cœur. C'est tout l'enjeu de cette retraite. Faire la lumière pour vivre en enfant de lumière. C'est pour ça que les prêtres se tiennent à votre disposition pour recevoir vos confessions, pour vous donner la miséricorde, pour faire la lumière. C'est allumer cette allumette dans le noir. Alors, on n'aime pas trop regarder, mais après, ça va quand même beaucoup mieux dans la lumière. Ce symbole de la lumière sera particulièrement fort dans la nuit de Pâques. Ne passons pas à côté, préparons nos cœurs. Nous en reparlerons demain. Désirons pour nous-mêmes cette purification qui nous ouvre le chemin de la sainteté et de la vie avec Dieu. Ne nous dérobons pas à la grâce de ces jours saints. Le Seigneur veut aller jusqu'au fond de nos cœurs. Et c'est ce que dit le pape après avoir remercié tous les prêtres qui sont fidèles pour leur dévouement. Il a une parole pleine d'espérance. Il dit « Enfin, je voudrais souligner l'importance de la nécessité de transformer ce mal en une opportunité de purification. » Regardons la figure d'Edith Stein, sainte Thérèse Bénédicte de la Croix. Certaine que, il cite Lichtenstein, que dans la nuit la plus obscure surgissent les plus grands prophètes et les plus grands saints. Mais le courant vivifiant de la vie mystique demeure invisible. Il est certain que les événements décisifs de l'histoire du monde ont été essentiellement influencés par des âmes dont rien n'est dit dans les livres d'histoire. Et quelles sont les âmes que nous devons remercier pour les événements décisifs de notre vie personnelle ? C'est une chose que nous saurons seulement le jour où tout ce qui est caché sera manifesté. Le pape poursuit en disant « Le saint peuple fidèle de Dieu, dans son silence quotidien, sous de nombreuses formes et de bien des manières, continue de rendre visible et atteste avec une espérance obstinée que le Seigneur n'abandonne pas, qu'il soutient le dévouement constant et en de nombreuses situations souffrant de ses fils. » Le saint et patient peuple fidèle de Dieu, soutenu et vivifié par l'Esprit Saint, est le meilleur visage de l'Église prophétique qui sait mettre au centre son Seigneur en se donnant chaque jour. Frères et sœurs, ce saint peuple de Dieu, patient et fidèle, c'est nous, si nous le voulons bien. Nous pouvons soit fermer les yeux, nous décourager, ou nous résoudre à une certaine médiocrité. Certains même vont peut-être quitter l'Église, ou bien nous pouvons décider de prendre les moyens de notre conversion personnelle. Et si nous sommes ici, c'est que nous avons ce désir. Participer activement à cette purification, à cette reconstruction, qui est en fait pleine d'espérance. Pour cela, nous ne pouvons rien faire sans la croix du Christ. Pour nous sauver, pour sauver l'Église, il n'y a que le Christ. Que fait le Christ sur la croix ? Il porte... Il enlève le péché du monde, c'est-à-dire le nôtre d'abord et celui de nos frères. Il accepte de souffrir pour nous, de porter ce mal sur ses épaules pour nous en libérer. Dans sa passion, il accepte d'être frappé, humilié, dépouillé de ses vêtements, agressé. Il est la victime lui-même par excellence. Il prend cette place volontairement, par amour. Par cette offrande libre de sa vie, de son corps, il change tout, il renverse tout, il fait toutes choses nouvelles. Il y a bien désormais une source qui jaillit pour laver péché et souillure pour tous les hommes et toutes les nations. Cette source jaillit du côté ouvert du Christ sur la croix. Cette source vient de la croix du Christ. Et nous sommes aujourd'hui au pied de la croix, nous pouvons recevoir cette eau vive. C'est lui qui nous sauve. Dans l'office des lectures du Jeudi Saint, il y a une homélie ancienne du IVe siècle de Méliton de Sardes sur la Pâque, qui est très belle. Si vous avez la liturgie des heures, vous pourrez rechercher cette homélie au Jeudi Saint. C'est lui, le Christ, c'est lui qui a plongé la mort dans la honte et qui a mis le démon dans le deuil. Comme Moïse a vaincu Pharaon. C'est lui qui a frappé le péché et a condamné l'injustice à la stérilité, comme Moïse a condamné l'Égypte. C'est lui qui nous a fait passer de l'esclavage, à la liberté, des ténèbres à la lumière, de la mort à la vie, de la tyrannie à la royauté éternelle. Lui qui a fait de nous un sacerdoce nouveau, un peuple choisi pour toujours, c'est lui qui est la Pâque de notre salut. Le Christ est notre Pâque, nous l'entendrons pendant ces trois jours. Le Christ est notre Pâque, vous savez que Pâque, ça veut dire passage. Le Christ est notre passage vers le salut. Il est la porte, il est le chemin. Le mystère pascal que nous célébrons pendant trois jours, c'est un retournement complet. Au départ, il y a une situation de mort. Aujourd'hui, le Christ meurt sur la croix réellement. Une situation de mort, c'est un peu celle où nous sommes. Un peu l'image qui nous a été renvoyée cette semaine symboliquement par les cendres à Notre-Dame de Paris, situation de mort. Et il se produit un retournement complet. La vie jaillit de la mort. Quand on voit cette croix lumineuse au-dessus des décombres, on voit que la vie jaillit de la mort, on voit notre espérance. Et cela, ce n'est pas notre œuvre. Qu'est-ce qu'on peut faire, nous, contre la mort? C'est la fin. Mais pas pour Dieu. Ce n'est pas notre œuvre, c'est l'œuvre de Dieu qui fait que véritablement la vie jaillit de la mort. C'est cela la bonne nouvelle, la mort n'est plus la fin. Le Christ a vaincu la mort, il nous a ouvert un passage. Autrement dit, il nous fait sortir de l'impasse. Jésus a dit dans Jean chapitre 10, « Je suis la porte ». Il a aussi dit « Je suis la vérité, le chemin, la vérité et la vie ». Par sa mort et sa résurrection, il nous ouvre donc la porte et nous fait passer vers la terre promise. Il nous obtient la vie en abondance. Nous pouvons relire Jean 10, 9 à 15. Et ici aussi, avec la prière de Saint-Claude de la Colombière, nous pouvons redire notre confiance. Jean 10, 9 à 15. « Moi, je suis la porte, dit Jésus. Si quelqu'un entre en passant par moi, il sera sauvé. Il pourra entrer, il pourra sortir et trouver un pâturage. Le voleur ne vient que pour voler, égorger, faire périr. Moi, je suis venu pour que les brebis aient la vie en abondance. » Moi, je suis le bon pasteur, le vrai berger qui donne sa vie pour ses brebis. Le berger mercenaire n'est pas le pasteur. Les brebis ne sont pas à lui. S'il voit venir le loup, il abandonne les brebis et s'enfuit. Le loup s'en empare et les disperse. Ce berger n'est qu'un mercenaire et les brebis ne comptent pas vraiment pour lui. Moi, je suis le bon pasteur. Je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Comme le Père me connaît et que je connais le Père, et je donne ma vie pour mes brebis. Alors, nous avons prié hier avec nos frères prêtres, le jour de leur fête, le jour de l'institution de l'Eucharistie. Et voilà, nous avons à cœur de prier pour eux, pour qu'ils soient ces bons pasteurs. En parallèle de Jean 10, vous pouvez lire Ézéchiel 34. Je ne lirai pas ici, mais voilà. Où Dieu se plaint des mauvais pasteurs, et en même temps il dit « Je prendrai soin moi-même de mes brebis ». Et voilà que le Seigneur se choisit des pasteurs selon son cœur. Ici, à Paray-le-Monial, nous pouvons prier pour nos prêtres, rendre grâce pour tous les bons prêtres que Dieu nous donne. Je lirai juste encore le passage de l'homélie de Monseigneur Aupetit, qui s'adresse comme évêque à ses prêtres, les prêtres de Paris. Il dit que les prêtres dont les mains qui touchent le corps et le sang du Christ ont été marqués par une onction sacrée, onction du Saint-Crème, retrouvent le sens profond de cette suite du Christ auquel ils ont donné leur vie pour comme lui servir et non pas être servi. Que le seul pouvoir qu'ils possèdent jamais soit celui-là même du Christ qui donne sa vie pour ceux qu'il aime. Et il s'adresse aux prêtres en disant « Je sais, mes frères, que c'est ce que vous vivez déjà et qui fait votre joie. » Et nous le savons. Et il s'adresse aux diacres aussi, « Rappelez-nous toujours par votre vie et le don de vous-même dans ce service que nous sommes tous d'humbles serviteurs, en particulier ceux qui ont pour mission de nous guider en étant configurés au Christ bon pasteur, c'est-à-dire nous les évêques. » Et il remercie aussi les consacrés, il leur demande d'être des prophètes du monde à venir, un signe pour notre temps. Alors Seigneur, demandons au Seigneur de bénir nos prêtres, de construire, de reconstruire son Église. Dieu qui veut que tous les hommes soient sauvés a envoyé son Fils, et c'est notre espérance. Nous suivons le Christ aujourd'hui dans sa passion, non pas comme des spectateurs extérieurs. Nous sommes invités à nous laisser prendre dans ce grand mouvement pour mourir avec lui afin de renaître. Il nous faut renaître, frères et sœurs. Aujourd'hui, nous faut demander la grâce de renaître. Pourquoi faut-il mourir avec le Christ ? Nous disons que par le baptême, nous sommes morts avec le Christ. Pourquoi faut-il mourir ? On n'a pas tellement envie de mourir. Il nous faut mourir pour renaître, pour naître à la vie d'en haut, pour vivre avec le Christ, pour recevoir de lui la vie en abondance qu'il nous promet dès cette vie d'en haut qui vient du Père. Comment pouvons-nous renaître ? Vous vous rappelez, c'était la question que Nicodème posait à Jésus dans Jean 3, 3 à 17. Amen, amen, je te le dis, à moins de naître d'en haut, on ne peut voir le royaume de Dieu. Il nous faut donc renaître. Nous sommes ici, à Paray-le-Monial, pour ce Triduum Pascal, parce que nous désirons voir Dieu, nous désirons être en contact avec lui, nous désirons connaître le Christ, quelles que soient les raisons pour lesquelles nous sommes venus, nous avons ce désir. Et Jésus nous dit, il vous faut renaître. Et il continue plus loin en expliquant à Nicodème. Il lui dit, car nul n'est monté au ciel, sinon celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme. De même que le serpent de bronze fut élevé par Moïse dans le désert, ainsi faut-il que le Fils de l'homme soit élevé, afin qu'en lui tout homme qui croit ait la vie éternelle. Car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais obtienne la vie éternelle. Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que par lui le monde soit sauvé. Alors ce passage est très important, Jean 3, 3 à 17, en particulier à partir du verset 13. De même que le serpent de bronze fut élevé par Moïse dans le désert, ainsi faut-il que le Fils de l'homme soit élevé, afin qu'en lui tout homme qui croit ait la vie éternelle. Nous avons vu, nous avons entendu hier que le Christ doit être élevé sur la croix. Élevé sur la croix, c'est sa mort, et puis élevé dans la gloire par sa résurrection. Vous vous rappelez cet épisode qu'on a lu pendant le carême de Moïse dans le désert qui fait un serpent de bronze, qui met sur un mât, pour que tous ceux qui sont mordus puissent, en le regardant, être guéris, être sauvés. Alors nous, aujourd'hui, nous sommes au pied de la croix, et nous regardons non plus un serpent d'airain qui est sur le sommet d'un mât, mais nous regardons le Christ qui a été élevé sur la croix pour que nous soyons guéris. C'est ça le mystère pascal que nous célébrons dans ces jours saints. C'est notre espérance que de la mort du Christ va jaillir la vie pour nous et pour le monde, et que c'est l'œuvre de Dieu. Ça veut dire qu'aujourd'hui, dans cette journée, on n'est plus tellement dans la pénitence du carême où on essayait de faire des efforts, se convertir. Aujourd'hui, on va plutôt se laisser sauver. Qu'est-ce qu'on peut faire encore ? Qu'est-ce qu'on pourrait donner ? On n'a rien à donner. En fait, aujourd'hui, on est arrivé au point zéro où on se dit « Maintenant, Seigneur, c'est toi qui dois me sauver. » Qu'est-ce qu'on peut faire quand tout est en ruine, quand on est dans les cendres, quand notre cœur est peut-être dans les ténèbres ? Et on peut s'en remettre au Christ qui nous ouvre un passage, qui nous fait sortir de l'impasse. Voilà la Pâque du Seigneur qui nous promet. Et si aujourd'hui, Vendredi Saint, nous sommes invités à pleurer d'une certaine manière, c'est pas tellement sur le Christ qui va vers sa mort, mais plutôt sur nos péchés, nos trahisons, nos lâchetés, et aussi celles de nos frères. Pleurer peut-être comme le faisait saint Dominique la nuit en disant « Seigneur, que vont devenir les pécheurs ?» Vous vous rappelez, dans le chemin de croix, Jésus rencontre les femmes qui pleurent, les pleureuses, et il leur dit « Ne pleurez pas sur moi, pleurez plutôt sur vous-même. » Mais surtout, ici apparaît, pleurons d'amour pour le Christ qui se laisse transpercer pour nous, qui n'a pas voulu nous laisser sur le bord du chemin quand nous étions brisés, meurtris, laissés pour morts. Pleurons d'amour pour Jésus qui est le bon pasteur, qui donne sa vie pour ses brebis. Il nous connaît, il connaît notre faiblesse, et ne nous abandonne pas. Il vient nous chercher, il nous relève patiemment. Il n'a pas peur de nos blessures, il n'a pas peur de nos drames intérieurs, il n'a pas peur de nos ténèbres, de nos péchés. Il vient nous chercher, il connaît tout ça. Nous sommes au pied de la croix aussi avec Marie. À l'heure de la plus grande ténèbre, tenons ferme dans l'espérance au pied de la croix avec Marie, au pied de la croix de celui qui nous sauve. Alors si nous sommes allés au fond de notre cœur aujourd'hui, si nous avons accepté de descendre avec cette petite lumière du Christ qui vient éclairer nos ténèbres, si notre cœur est peut-être brisé, alors seulement nous pourrons renaître. Tant que notre cœur est dur, nous ne pouvons pas renaître. Mais si notre cœur est brisé, nous pouvons renaître. Alors demandons la grâce de le croire, de le désirer vraiment, et puis d'accueillir cette grâce qui est offerte aujourd'hui. La croix ne doit pas nous écraser. Jésus nous invite à lui remettre notre fardeau, car c'est lui qui veut le porter pour nous. Alors aujourd'hui est un jour aussi de combat. Il ne faudra pas s'étonner du combat spirituel. On va peut-être avoir envie de fuir, de quitter la chapelle, d'aller faire des courses, d'aller se promener, de sortir de là, parce qu'il y a une lutte. La mort et la vie s'affrontent, on verra plus tard dans le Triduum. Il y a en nous un combat. On ne veut pas forcément que le Seigneur fasse la lumière, mais lui nous prend délicatement et veut faire la lumière dans nos cœurs. Alors remettons-lui tout ce que nous sommes comme nous sommes, nos découragements peut-être, nos épuisements devant la souffrance qui est trop lourde à porter dans nos vies, ou souvent dans la vie de ceux que nous aimons. Remettons-lui toutes nos impuissances. Laissons-le nous consoler, nous encourager et finalement nous sauver. Je terminerai par cette parole dans Matthieu 11, 28, 30. Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi je vous procurerai le repos. Prenez sur vous mon joug, devenez mes disciples, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour votre âme. Oui, mon joug est facile à porter, et mon fardeau léger.